Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Cette semaine, l'envie de savoir s'intéresse au destin d'une femme peu connue du grand public, mais qui a marqué l'histoire du mécénat artistique du 19e siècle. Il s'agit de la comtesse de Caen. Grande défenseure de la liberté des artistes, elle a soutenu la création sous toutes ses formes et a choisi, à sa mort, de léguer une grande partie de sa fortune à l'Académie des Beaux-Arts. Un choix vraiment peu commun, à la hauteur de son engagement. Et aujourd'hui, son nom reste attaché à une aile du palais de l'Institut, qui est de Conti, à Paris. Mais on sait finalement peu de choses de cette femme. Alors pour réparer ça, une exposition organisée par l'Académie des Beaux-Arts lui est aujourd'hui consacrée dans le pavillon qui porte son nom. Pour en parler, j'accueille France Lechleter. Bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes commissaire de l'exposition et responsable des collections à la bibliothèque Villa Marmottan. Merci d'être à ce micro. Pour faire toute la lumière sur cette comtesse de Caen, on connaît assez peu de choses de cette personnalité assez discrète aujourd'hui, mais qui de son vivant était assez flamboyante. Qui est-elle au juste ?
Alors, Anne-Sophie Marchoux, effectivement, est une personnalité aujourd'hui peu connue. Les archives que j'ai pu retrouver et qui parlent d'elle indiquent un caractère très enjouée. Ouais. C'est une femme qui avait l'air d'aimer la vie, d'aimer la fête, et qui, en même temps, était très sérieuse. Une personnalité avec un caractère contrasté, en fait, on pourrait dire ça. Mmh. C'est une femme qui était artiste à son époque. Mmh. Elle était peintre, elle était sculpteur, et elle est connue pour avoir exécuté les cariatides qui ornent l'entrée de la galerie Vivienne.
À Paris.
Ouais. À Paris, exactement.
On peut pas parler d'une carrière. On peut parler d'une carrière ? Pas vraiment ?
Non, je pense pas qu'on puisse effectivement parler d'une carrière. C'était une amatrice éclairée.
Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut quand même admirer ces cariatides, ces sculptures sur le fronton de la galerie, de l'entrée de la galerie Vivienne.
D'une des entrées, oui.
D'une des entrées, parce qu'il y a trois entrées.
Exactement.
Donc qui est un passage couvert dans Paris. Il faut dire que c'est son père qui a construit cette galerie qui était très courue des Parisiens au XIXe siècle. C'était un lieu important de commerce, de sociabilité. Et donc cette comtesse de Caen, Anne-Sophie Marchoux, était la fille du constructeur de la galerie Vivienne.
Oui, son père, Louis-Auguste Marchoux, était notaire. Oui. C'est une histoire assez intéressante, celle du père, puisqu'il vient de sa province à la fin du XVIIIe. Il arrive à gagner suffisamment pour pouvoir racheter une étude notariale assez importante qui se situe aussi de la rue Vivienne. Donc à partir de là, il a une situation. Les affaires marchent plutôt bien. C'est une étude qui a des clients assez célèbres, des artistes bien placés dans Paris. Et Louis-Auguste, je pense, avait le sens de l'entrepreneuriat
Des affaires.
Il savait faire de l'argent et il a compris assez vite que l'endroit où il se situait et qui était en fait un ensemble d'immeubles qui était traversant, il a donc eu l'idée de créer une galerie à cet endroit-là, un passage couvert. Et pour ce faire, il a acheté quasiment tout le pâté de maison. Donc en 1826, qui est la date officielle de l'ouverture de la galerie Vivienne, la galerie est effectivement très courue. D'abord parce qu'elle est éclairée au gaz, et donc il faut s'imaginer un environnement magnifique, brillamment éclairé, avec des boutiques, avec des façades en bois et verre.
Assez luxueuse.
C'est très luxueux. Les vitrines sont aussi les boutiques qui s'installent sont des boutiques de luxe, pas très loin du Palais Royal.
C'est ça.
Et on a en général les élégantes parisiennes qui font leurs emplettes dans un lieu qui les met à l'abri des intempéries, puisque c'est un passage couvert, et puis des bruits de la rue, et de la boue, etc., etc.
Ça, c'est assez nouveau.
C'est dans la mode de l'époque, en fait.
On comprend bien que Anne-Sophie Marchoux grandit dans un milieu très fortuné. Elle vient pas d'un milieu aristocratique, mais elle grandit dans un milieu aisé. Quelle relation elle entretient avec le monde de la culture, les artistes de son époque ?
Je l'imaginais jeune fille déambulée, et même petite fille déambulée, elle est née en 1809, mais jeune fille déambulée dans cette galerie Vivienne, où elle pouvait voir des spectacles vivants. Donc en fait, je pense qu'elle forme son goût aussi au contact
de cette galerie
Vivienne. Elle était effectivement intéressée par l'art de son temps. On sait qu'elle a fréquenté à un moment donné Delacroix, puisqu'il parle d'elle dans son journal. Il s'était pris de passion pour ses épaules, qu'elle avait fort belle, disait-il. Et je pense en fait qu'elle avait un côté artiste. Elle est avide de connaissances, très intelligente. Et ce sont des qualités qui, à l'époque, étaient plutôt vues de manière péjorative et qu'on pouvait désigner sous le terme du bas bleu.
Est-ce qu'on connaît l'origine de ce mot, de ce mot-là, bas bleu ?
Oui, alors le bas bleu est une expression qui est née à Londres au XVIIIe siècle, sous le nom de blue stockings, et on pense que l'origine reviendrait au port de bas bleu par le botaniste Benjamin Stillingfleet, et ça désigne ce terme de bas bleu sous la monarchie de Juillet, les femmes qui osent prétendre au statut d'intellectuelle.
Elle est proche de certains artistes, elle les aime, ces artistes de son époque. Est-ce qu'elle les soutient financièrement de son vivant ou alors ça sera seulement après sa mort ?
C'est effectivement avec son legs, à son décès, que la comtesse de Caen, Anne-Sophie Marchoux, va révéler au monde artiste le soutien qu'elle apporte à la création artistique. Donc ce qui est important de savoir, c'est, on ne l'a pas encore évoqué, mais effectivement elle est comtesse de Caen. Elle épouse en fait le comte de Caen, qui est le fils d'un général d'Empire, et elle était fiancée en fait au frère de son époux, et ce frère est malheureusement décédé d'une chute accidentelle de cheval, et elle se retrouve en fait mariée au frère, donc à Camille.
Ce n'est pas un mariage très, très heureux.
C'est un mariage très malheureux, même, on peut le dire, Marie, qui va lui causer beaucoup de chagrin. C'est un mariage qui va rester sans descendance. Donc ça, je pense que ça sera une blessure pour Anne-Sophie. Elle est énormément tournée vers les autres. Elle porte en elle ce besoin de prendre soin des autres. Et je pense que le fait de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir de descendance, va jouer un rôle considérable dans son envie de transmettre son patrimoine à une autorité, une institution qui va être en capacité, en fait, de le préserver, ce patrimoine. Et c'est pour ça qu'elle va choisir l'Académie des Beaux-Arts. Elle a hérité de cette galerie Vivienne de son père, et donc elle hérite des affaires. Elle est fille unique, donc elle devient femme d'affaires. Et il est dit dans le testament de son père qu'elle hérite en propre de la gestion locative, et son mari va gérer tout ce qui est grands travaux, tout ce qui est logistique. Donc, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, d'ailleurs. Il le dit, il y a des lettres de son époux où il dit « Je ne prends aucune décision sans vous en faire part. C'est à vous que reviennent... »
Oui, c'est elle
qui est aux manettes. Exactement. Et cette relation qu'ils ont tous les deux, qui est assez explosive, elle est due probablement au fait que le comte de Caen était joueur. Probablement, alors j'imagine, je n'en sais rien, mais peut-être un mari infidèle, puisque dans son testament, elle indique qu'il lui a quand même fait énormément de mal tout au long de leur mariage, et que, justement, ce legs qu'elle fait en faveur de la jeunesse artiste et aussi des jeunes orphelins du canton de Gênes pour une ferme-école à Saint-Georges-du-Toureil est en quelque sorte une vengeance pour elle, vis-à-vis de son époux et de ce mariage malheureux.
Donc c'est une des raisons de ce legs-là. Après, à côté, son amour pour les
exactement,
arts.
Exactement, il y a une volonté chez elle de soutenir la création artistique, de permettre aux artistes de créer librement. La liberté est une notion fondamentale chez elle. Et qui est étayée aussi par ses convictions saint-simoniennes, qu'elle va développer notamment dans ce foyer saint-simonien en Anjou.
Avec des idées assez progressistes.
Très progressistes pour une femme de son époque, et notamment avec une éducation somme toute assez classique de jeunes femmes du 19e élevées dans la religion catholique. Donc c'est ça qui est fascinant chez elle, c'est qu'elle a des facettes qui nous sembleraient complètement antinomiques.
Bah oui, ouais.
Et en fait, ça participe d'une personnalité d'une grande complexité, d'une grande richesse aussi, et comme je le disais avant, extrêmement tournée vers l'autre.
Et autre chose qui est aussi fascinante dans sa personnalité, c'est que donc elle fait ce leg assez conséquent à l'Académie des Beaux-Arts, donc on comprend son attachement au créateur, à la création, et en même temps elle n'avait pas l'air si mondaine que ça, puisque elle fuyait Paris pour vivre dans sa campagne,
à
labourer les champs, ça aussi c'est une facette
Je pense qu'à un moment donné, effectivement, elle a fui Paris et ses mondanités parce qu'elle avait besoin de calme, elle avait besoin de sérénité, et je pense qu'elle se ressourçait en fait beaucoup au contact de la nature et puis en pratiquant son art.
Alors à sa mort, elle lègue sa fortune à l'Académie des Beaux-Arts qui doit, en échange, donc l'Académie, fonder un musée. Ce qui est assez particulier à l'époque, c'est qu'en fait, elle confie à l'Académie la charge de lancer un musée qu'elle ne connaîtra jamais.
Absolument.
Et ça, c'est assez nouveau.
Alors, ce qui est déjà très nouveau, c'est de confier une telle fortune à l'Académie des Beaux-Arts.
Oui.
En fait, c'était habituel de faire des legs à l'Académie des Beaux-Arts, aux institutions, mais l'entièreté d'une fortune, on n'avait jamais vu ça. Donc, en fait, c'était habituel pour ce qui était de l'église, des hôpitaux, mais...
Pas dans les arts.
Pas dans les arts, en tout cas. Donc, la presse s'est fait l'écho déjà de cette particularité en titrant les millions de la comtesse de Caen pour soutenir les arts. C'était quelque chose de tout à fait étonnant et de tout à fait nouveau de sa part. Donc, déjà, ce premier point est très intéressant à soulever. Le second point, qui est aussi extrêmement intéressant, et c'est qu'en fait, et c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est qu'elle va léguer sa fortune et la galerie Vivienne pour générer une fondation. Cette fondation, en fait, a pour but de servir des pensions aux anciens Grands Prix de Rome, de peinture, de sculpture et d'architecture qui reviennent de leur temps de résidence à la Villa Médicis. Elle souhaite en fait que durant 3 ans, ils aient une pension financière suffisante pour créer librement, c'est-à-dire qu'ils puissent développer un art qui leur soit personnel sans être obligés de répondre à des commandes.
Ils n'ont aucune contrainte.
Aucune contrainte. Et en échange de ce soutien financier, elle aimerait que soit créé un musée et y seraient déposées des œuvres d'art originales créées par les récipiendaires du legs en hommage à la comtesse de Caen et à son testament. Donc effectivement, on a deux choses. D'un côté, la fondation, donc le soutien à l'art, et de l'autre, ce musée qui n'existe que sur le papier, qui est en fait une idée qui lui tient à cœur, qu'elle sait compliquée à exécuter et qu'elle souhaite de ses voeux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, elle voulait que ce soit dans ses appartements de la rue Vivienne.
Mais alors, on n'a pas choisi son appartement comme lieu d'exposition.
Exactement, parce que l'Académie s'est rendu compte assez rapidement que pour un lieu ouvert au public, il y avait des questions de sécurité et qu'il était impossible, en fait, au fur et à mesure que les collections allaient s'enrichir, puisqu'on a 3 bénéficiaires du legs de Caen par an. Donc, 3 œuvres déposées tous les ans. Au bout d'un moment, le volume aurait fait que, de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Et puis, les accès, etc., tout était très compliqué. Donc, l'Académie des Beaux-Arts a offert d'installer ce musée dans le pavillon ouest de l'Institut de France, dont la jouissance lui a été octroyée par décret du président de la République en 1872.
Alors, je voulais revenir un peu sur la fondation, parce qu'il y a ce musée, mais en amont, il y a cette fondation qu'elle lance pour soutenir des jeunes artistes lauréats du prix de Rome.
C'est ça.
Peut-être revenir sur ce prix de Rome. C'est un prix qui a été fondé, lancé sous Louis XIV, si je ne dis pas de bêtises. Et ce prix, il symbolise, vraiment l'art académique officiel par excellence.
Le Grand Prix de Rome est en lien avec une formation bien particulière qui commence à l'École des Beaux-Arts, mm-hmm. où les jeunes élèves sont formés au dessin, aux arts du dessin d'abord, sous Louis XIV, effectivement, et jusqu'en 1863. Et donc, c'est toute une tradition qui se cache derrière ce Grand Prix de Rome, à laquelle se trouve associée l'Académie des Beaux-Arts. Mmh. Pourquoi ? D'abord parce que les académiciens étaient professeurs à l'École des Beaux-Arts, et ensuite parce que l'État a confié à l'Académie des Beaux-Arts la tutelle morale et artistique des jeunes pensionnaires à l'École de Rome. Donc, en fait, vous avez des figures tutélaires, et c'est là où on va parler de doctrine académique, mmh. puisqu'on va imaginer que les artistes ont le droit, pour simplifier, ont le droit de s'inspirer de certains artistes et de ne pas regarder d'autres, notamment la peinture du Nord, les Rubens ou la peinture espagnole, etc., qui est considérée comme étant moins intéressante pour un peintre d'histoire, puisque cette formation, elle vise à générer des artistes qui vont se consacrer au grand art. Mmh. La sculpture officielle, la grande architecture et la peinture d'histoire.
Mmh. Et on n'est pas encore, c'est pas encore l'heure des impressionnistes.
Pour la comtesse de Caen qui meurt en 1870, effectivement, on n'est pas encore à l'heure des impressionnistes. Enfin, ça sera 4 ans plus tard, tout ça est en gestation. Mais on a déjà connu le Salon des Refusés en 1863, qui a vu notamment un peintre comme Manet émerger. Donc, et puis, le réalisme est déjà passé par là. Et puis, on a eu la Révolution romantique. Donc, en fait, on sait que David, dont le Louvre présente une exposition magnifique en ce moment, est un artiste qui est passé. Son temps est passé. Il est considéré comme académique. Ingres est un cas un petit peu plus intéressant, puisque beaucoup moins académique que ce qu'on a pu penser à son époque, mais qui est aussi attaché à l'Académie des Beaux-Arts et qui est d'ailleurs assez intransigeant sur certains points, en tout cas dans ses écrits. Mais oui, on est dans une autre temporalité, dans une temporalité qui n'est pas celle de la modernité. En tout cas, c'est ce qu'on pense à tort, puisque pour avoir travaillé sur les envois de Rome de la deuxième moitié du 19e, on voit que ces artistes sont présents à leur temps.
Alors, de quel artiste on parle ? On peut peut-être donner un ou deux exemples de ces artistes qui ont été soutenus par cette fondation ?
Alors, c'est des artistes dont les noms ne vont pas vous évoquer grand-chose, j'en ai bien peur. On peut citer Albert Bénard, qui est quand même un artiste qui a eu des funérailles nationales en son temps, qui était membre de l'Académie des Beaux-Arts, membre de l'Académie française, qui était désigné comme le pompier qui a pris feu. Donc, par pompier, on désigne cet art académique. C'est un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Même académique est un mot valise qui n'a pas tant de sens et qu'il faudrait décortiquer, puisqu'il ne renvoie pas nécessairement à une idée d'un art conventionnel. On pourrait parler d'art officiel plus, bien que ce terme aussi ait des consonances péjoratives. Mais Albert Bénard est un artiste très important pour son temps, un coloriste, un grand voyageur. En termes de sculpteur, on peut citer Denis Puech, qui n'est pas forcément très connu non plus, mais qui, à son époque, était une sommité.
En tout cas, ce sont des artistes qui sont, dans leur temps, reconnus, mais qui, aujourd'hui, ont été un petit peu oubliés par
l'histoire de l'art. Oui et non, c'est-à-dire que la recherche universitaire quand même s'attache depuis un certain nombre d'années à travailler à la fois sur ces artistes et sur tout ce qui concerne la formation artistique, les institutions de l'époque, le salon également. On a quand même les musées de province qui sont assez actifs. On a une exposition récente, d'ailleurs, je crois qu'elle est passée par Paris au Petit Palais, sur André de Vambèze, qui était Grand Prix de Rome, et dont on possède dans les collections de Caen une Danae, magnifique peinture de nu. Donc on a quand même des artistes qui sont célébrés par les musées, l'histoire de l'art contemporaine.
À Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une partie de ces artistes prix de Rome, un peu oubliés aujourd'hui et dont on vient de parler, eh ben, ils sont aussi exposés actuellement au pavillon Comtesse de Caen, qui a donc remplacé le musée de Caen à l'Institut.
Effectivement, on a reconstitué le musée de Caen dans son lieu d'origine et on a reconstitué un accrochage qui n'est pas un accrochage d'époque, puisque nous n'avons pas toutes les œuvres à notre disposition, mais qui a été organisé selon une thématique qui recoupe en fait ces questions qui sont celles de la formation artistique à l'époque de ces Grands Prix de Rome. Donc on a à la fois pour la section architecture des dessins qui sont des envois de Rome, des architectes de l'époque. Et nous avons des peintures et des sculptures sur le nu et le portrait. Ce sont les deux grandes thématiques qui traversent en fait les collections de Caen et qui illustrent justement l'excellence de cette formation autour de l'étude du corps humain et notamment du nu au travers de quelques œuvres que l'on a exposées.
Si on doit en commenter une de ses œuvres qui est actuellement exposée. Je crois qu'il y a notamment un pastel de Lucien Doucet qui mérite peut-être qu'on
s'y arrête quelques instants. Ouais. Tout à fait, on possède un pastel de très grande dimension dû donc à Lucien Doucet, qui est un peintre qui est assez peu connu parce qu'il est décédé prématurément à l'âge de 39 ans, qui est un artiste qui a une importance fondamentale pour l'histoire de l'Académie des Beaux-Arts et de sa tutelle artistique à la Villa Médicis, puisque c'est un artiste qui a un peu secoué le joug justement du règlement, de la doctrine académique, à l'époque où il était pensionnaire à l'École de Rome. Donc on parle des années 1880, on est en 1885, et Lucien Doucet, qui est un jeune homme qui a tout compris en fait à l'esprit de son époque, qui sait que pour attirer l'attention du public et de la critique, il faut faire du scandale, a décidé d'envoyer à l'Académie des Beaux-Arts en envoi de Rome de dernière année des nus, deux femmes, deux dos, dans une scène qui n'a absolument rien d'historique, qui est une scène de harem. Mmh. Et lorsque l'Académie voit arriver cet envoi, elle s'étonne que le directeur, qui est le paysagiste Cabat, et laisser passer une œuvre qui montre clairement, dans des postures très équivoques, des nudités féminines. Et donc Cabat se plaint de ce que les artistes font bien ce qu'ils veulent à l'École de Rome et que personne ne lui montre rien et qu'il ne savait pas que Lucien Doucet allait faire une œuvre de scandale. Et donc s'excuse platement auprès de l'Académie qui dit que l'envoi va être censuré. Sauf que les artistes de l'École de Rome décident de soutenir leurs camarades et font savoir à l'Académie des Beaux-Arts que si l'œuvre n'est pas exposée à l'École des Beaux-Arts, les leurs non plus. Mmh. Donc pour l'Académie, c'est une catastrophe. Elle ne peut pas ne pas montrer le résultat des années d'études de ces artistes, puisqu'elle est déjà sous le feu des critiques.
Donc elle finit par céder ?
Elle finit par céder, et évidemment, l'œuvre fait scandale. Elle fait scandale à l'École des Beaux-Arts, et elle va faire scandale au Salon, mais Lucien Doucet a bien compris que le scandale attire l'attention. Et donc, il est célébré, non pas pour avoir peint des femmes nues, puisqu'à l'époque, c'est les nudités, on en voit chaque année au Salon. Ce qui va intéresser la critique, c'est qu'on a affaire à un vrai peintre, un artiste avec des qualités de métier qu'on n'avait pas vu depuis Henri Regnault, grand peintre qui aurait pu révolutionner la peinture et qui était Grand Prix de Rome aussi. Et donc, on a une habileté, un fer de peintre, une façon de traiter la pâte avec une sensualité, un colorisme qui était proprement incroyable pour un Grand Prix de Rome et puis surtout à son époque. Et donc cet artiste va donner pour les collections de Caen un nu, un petit clin d'œil peut-être à ce harem donc d'une jeune femme qui est debout. Elle se regarde dans une psyché, on a ses vêtements qui sont posés sur une chaise juste à côté d'elle, elle a les pieds dans un tapis de fourrure et elle regarde le spectateur d'un œil. Et c'est évidemment une courtisane qui est représentée. On pense à Rolla de Gervex, à toutes ces femmes qui sont finalement des femmes puissantes, puisque même si elles profitent en fait de leur corps pour avoir du pouvoir, elles arrivent quand même à justement être des femmes de pouvoir et des femmes puissantes à une époque où peu de femmes le sont. Et autonomes financièrement, en se servant des hommes qui veulent posséder leur beauté.
C'est un tableau assez sensuel.
C'est effectivement une composition déjà très, très sensuelle. Et puis la jeune femme est aussi représentée à l'aide de cette technique du pastel avec énormément de sensualité, oui.
Donc ça, c'est une des œuvres qu'on peut retrouver dans cette exposition au pavillon Comtesse de Gand, qui est ouverte au public jusqu'au 30
jusqu'au novembre.
Jusqu'au 30 novembre prochain. Et l'entrée est gratuite. Dernière petite question sur la Comtesse de Gand. Pourquoi son nom est peu connu aujourd'hui ?
Alors, je pense que son nom est peu connu aujourd'hui parce que l'histoire du legs de Gand s'était déjà perdue. On avait perdu la mémoire de ce musée de Caen. Donc l'Académie des Beaux-Arts elle-même avait perdu cette mémoire qui n'a jamais été écrite. Donc au fur et à mesure de la disparition des témoins du temps de la comtesse, l'histoire s'oublie. D'autre part, la Galerie Vivienne, qui est un patrimoine important, n'a jamais été attaché à son nom et à celui de sa famille. Donc effectivement, lorsque ça s'est ouvert en 1826, on a très rapidement appelé ce passage couvert le passage Vivienne, ou la galerie Vivienne, et non pas le passage Marchoux.
Alors, un temps, au début de sa construction, on l'appelait le passage Marchoux.
On trouve dans quelques comptes rendus de l'époque le nom de Marchoux, de galerie Marchoux, mais en fait, ça passe assez rapidement. Très rapidement, c'est le nom galerie Vivienne, qui s'impose. Et Anne-Sophie Marchoux avait aussi cette volonté, en transmettant son patrimoine, de garder mémoire de sa famille. Elle était très attachée à son patrimoine familial, à cet héritage qu'elle souhaitait faire perdurer. C'est pour ça qu'elle choisit l'Académie des Beaux-Arts. Sauf que le temps passant, le musée disparaissant, musée qui était connu à son époque, puisqu'on trouve des coupures de presse de journalistes qui parlent de ce musée de Caen inconnu, de ce musée secret, qui recèle des chefs-d'œuvre, puisque ce sont des œuvres de jeunesse, d'artistes qui sont devenus académiciens ou qui sont aujourd'hui connus pour d'autres styles que ceux de leur jeunesse, et qui disent « allez-y voir, ça existe, vous pouvez y entrer, même si on vous dit que c'est pas ouvert ». Mais effectivement, dans le patrimoine commun et l'histoire de l'Académie, cette histoire-là s'était perdue. Aujourd'hui, le souhait de l'Académie est de remettre en valeur à la fois son patrimoine, et d'ailleurs, elle a fait restaurer toutes les collections de Caen pour cette exposition, mais c'est aussi de mettre en valeur une femme mécène de l'Académie des Beaux-Arts. Et Anne-Sophie Marchoux a effectivement fait une œuvre de mécène de manière extrêmement moderne, puisqu'elle encourage les arts, la création contemporaine. Elle lègue une collection qui est sa collection de faïences et d'objets d'art et de curiosités, comme Béatrice Effrussi ou...
qui est une autre mécène.
Qui est une autre mécène.
Ou Nelly Jacquemart.
Ou Nelly Jacquemart, André, exactement. Sauf qu'elle ne lègue pas un patrimoine à son nom. Donc, pour Nelly Jacquemart, on a le musée Jacquemart-André. Pour Béatrice Effrussi-Trotschild, on a la villa Effrussi-Trotschild. Et pour Anne-Sophie Marchoux, on a la galerie Vivienne. Donc, elle s'efface derrière ce patrimoine.
Ouais, c'est peut-être ça qui lui fait défaut.
Probablement. Et elle-même n'a pas laissé, outre son testament, de marque fondamentale sur son époque. Elle reste assez peu connue, assez méconnue, même des carnets mondains de son époque, puisque finalement, elle se retire assez précocement à la campagne.
En tout cas, c'est un geste assez noble qu'elle a fait de ne pas avoir à poser son nom et d'avoir voulu absolument offrir un patrimoine à son nom.
Oui, elle indique quand même dans son testament que le musée s'appellera Hermance Marchoux, qu'elle souhaite, elle a quand même des idées assez précises, et elle lègue son portrait à l'Académie pour que son portrait soit également présent dans ce musée de Caen. Donc on voit la mécène pointer du doigt son testament, et donc on a un acte fort qui est posé tout de même avec ce portrait. Ce sont des aspects qu'on évoque dans le catalogue notamment.
qui est aussi à découvrir. Et le portrait aussi qu'on peut
voir,
assez impressionnant,
oui.
Assez beau, qui est actuellement exposé au pavillon Comtesse de Caen. Donc c'est jusqu'au 30 novembre prochain. Et je signale, comme vous l'avez dit, le catalogue de l'exposition Le Musée Secret de la Comtesse de Caen, dans lequel vous revenez vraiment en détail sur la vie et le destin de cette personnalité, mais aussi plus largement de la vie artistique parisienne du 19e siècle.
Merci.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.